Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.
Bonjour, mon nom est Sylvain Grisot, je suis urbaniste et fondateur de Dixit.net. Je vous propose aujourd'hui une visite guidée d'ici Nantes, une fabrique urbaine implantée dans un quartier en pleine transformation. Les 1600 m² d'anciens bâtiments de la caserne Mélinet ont été transformés en ateliers partagés par des artisans qui produisent au cœur de la ville. Gastien Sépulcre et Drew Taylor nous expliquent pourquoi il est essentiel d'implanter dans la ville les acteurs du fer et puis nous font visiter les lieux. Retrouvez toutes nos publications et notre newsletter sur Dixit.net. Bonne écoute. Gastien, bonjour.
Bonjour Sylvain.
Alors, est-ce que je peux te laisser te présenter et puis nous présenter le lieu où on est ?
Bien sûr. Donc, Gastien Sépulcre, moi j'ai une formation d'ébéniste. Et ça fait 20 ans que je suis ébéniste. Et ça fait 20 ans que je pratique mon métier en centre-ville, mon métier d'artisan, et que je réfléchis aussi à la façon de faire évoluer mon métier, en commençant dès l'école d'ébénisterie, en râlant parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur et qu'on apprenait à dessiner qu'à la main. Du coup, j'ai toujours, au cours de ma vie professionnelle, baigné dans cet univers de l'artisanat, du numérique et du design, qui sont aujourd'hui les sujets qu'on développe sur cette manufacture dissidente. Et j'ai moi rejoint le projet Make Ici il y a 3 ans pour développer la manufacture de Nantes, et donc ce maintenant magnifique lieu dissidente au sein de la caserne Mélinette, une ancienne caserne militaire de 13 hectares, qui est en cours de réhabilitation. Ça a commencé il y a, je pense, plus de 5 ans, 6 ans, et on a encore jusqu'à 2030, donc il y a un petit peu de temps de travaux sur ce lieu.
Alors c'est le temps du projet urbain, c'est long en effet, c'est un projet qui a démarré, donc un vrai projet de recyclage urbain. C'était une caserne de gendarmerie, je crois.
Non, c'était une caserne, la caserne de gendarmerie existe toujours, elle est en face, et
d'accord.
Là c'était une caserne de militaire. Je ne peux pas dire le type de militaire.
Bon, alors ça, de toute façon, on n'est pas spécialiste. Mais en tout cas, on est bien au cœur de la ville. On a une opération qui est en cours. On a une première construction neuve. On a un certain nombre de bâtiments qui sont conservés, qui sont en réhabilitation. Le bâtiment dans lequel la manufacture, donc ici Nantes, est aussi un bâtiment qui était là, qui a bénéficié d'un réemploi. Ça servait à quoi, ces bâtiments ?
Alors, c'est des bâtiments qui ont été construits pour servir, c'était les grandes écuries. Donc, il y a encore dans le lieu, le long de tous les murs, les mangeoires, et on peut voir, les traces des panneaux d'affichage des chevaux sur les murs. Et c'est un lieu qui, au fur et à mesure de la vie de la caserne, a eu divers usages, dont le dernier, avant le nôtre, était le magasin d'habillement, donc le stock des vêtements militaires. D'où un panneau, si vous cherchez bien dans le lieu, il y a un panneau pantalon bariolé.
D'accord.
Donc voilà. Donc on est dans un magasin d'habillement.
Alors visiblement on trouve plus beaucoup de pantalons ni beaucoup de chevaux. mais aujourd'hui on trouve quoi ici ?
Alors ici on est dans une manufacture. Moi j'aime beaucoup parler de manufacture puisque pour moi une manufacture c'est un lieu où les gens travaillent. Et c'est un lieu où les gens travaillent notamment avec leurs mains. Et donc le but de cette manufacture, c'est de permettre à des personnes, vraiment à des individus, d'exercer leur activité professionnelle, d'en vivre, de la développer, et je rajouterais d'y vivre heureux, puisque justement un de nos âges de travail, au-delà du travail ensemble, va être de voir qu'est-ce que nous, on peut apporter à ces entrepreneurs sur le métier donc, du numérique, de l'artisanat et du design, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur apporter comme équipement, comme cadre et comme communauté, pour que justement eux puissent se développer personnellement et développer leur activité professionnelle.
Donc on a des gens, des artisans, des artistes, c'est quel type de métier qui est présent là de façon
Alors aujourd'hui on a 37 résidents, ce qu'on les appelle résidents, qui vont être sur les métiers du bois, du métal, du textile, du numérique, de l'impression 3D, de la scénographie. On a aussi une coopérative d'activité et d'emploi, donc sur l'administratif aussi. Et j'en oublie sûrement, mais voilà. Le but pour nous, c'est vraiment d'être dans cette diversité et de savoir-faire pour que, justement, il y ait une richesse et pas simplement de la coactivité, mais des vrais échanges entre des savoir-faire différents.
Alors là, on est dans le dedans, ce qui se passe dedans. Donc on produit, on fait des choses ici, on partage des outils, enfin, tu l'as dit, y compris des outils numériques. Hein. La question n'étant pas que de partager la scie sauteuse, mais bien à un moment de pouvoir finalement, pour des artisans plutôt petits, plutôt solo ou en petite équipe, de disposer aussi d'outillages qui nécessitent un investissement, peut-être aussi de monter en compétences là-dessus, c'est aussi un des sujets qu'on pourrait aborder. Tout ça pour travailler dans la ville. Alors pourquoi pas faire ça en zone d'activité où il y aurait de la place, ce serait quand même plus simple. Hein, on pourrait se garer.
ce serait beaucoup plus simple.
Éventuellement, vous pourriez même monter une SCI, etc., etc. Bref, faire comme tout le monde. Alors pourquoi faire ça en ville?
Alors, je le disais au début, hein, moi j'ai toujours vu un intérêt à travailler en centre-ville. Aujourd'hui, il y a une nécessité dans la compréhension et dans la pérennisation de ces activités. Il y a une nécessité de proximité avec le consommateur. Et je crois que cette nécessité, elle s'exprime de plus en plus dans les deux sens, à savoir qu'on a besoin, en tant que consommateur, on a besoin de savoir qui fabrique, où, pourquoi, on a besoin de voir comment c'est fabriqué, de comprendre. Et on a du côté des artisans, des entrepreneurs du fer, on a besoin d'expliquer pourquoi ça coûte, pourquoi c'est différent et quel est l'intérêt de pouvoir fabriquer ici, vraiment en local et en circuit très court.
Oui, donc on retrouve une logique de proximité, mais pas les quelques kilomètres, hein, une immédiate proximité. C'est-à-dire que c'est pas juste arriver à toucher le produit, il faut toucher l'artisan, quoi, quelque part. Il faut arriver à vraiment pouvoir dialoguer.
On peut même aller un petit peu plus loin dans notre raison d'être en centre-ville. On va aussi donner la possibilité aux habitants de fabriquer eux-mêmes. Et c'est un petit peu l'aboutissement du modèle, c'est de dire c'est très bien d'acheter local. C'est important de comprendre pourquoi on fait fabriquer à côté. C'est important de rencontrer les personnes qui fabrique, de rentrer dans cette relation humaine avec des personnes. Et c'est aussi important de se réapproprier ce qu'on consomme. C'est-à-dire que l'idée de ce que j'avance ici n'est pas de dire tout le monde va pouvoir tout fabriquer. L'idée, elle est de dire c'est en découvrant le métier de l'artisan que je vais comprendre la richesse de son savoir-faire et que je vais savoir comment utiliser pour ma propre consommation cette valeur de l'artisan et son savoir-faire.
Alors, Tu parlais aussi, quand on discutait en amont, de choses qui, de ce que j'ai compris, étaient plutôt sur une logique de projet, enfin, qui n'étaient pas encore mises en œuvre. C'est dire qu'on a... Il y a cette partie dialogue entre ces acteurs, producteurs, consommateurs, on les appelle après comme on veut, citoyens et artisans aussi, on pourrait dire ça. Mais il y a aussi la question des matières. Et la circulation des matières localement. Ici comme ailleurs, quand on produit, on produit du déchet. On produit beaucoup de déchets, alors on pratique beaucoup l'économie du bâtiment, donc qui est extrêmement productrice de déchets, dont une bonne partie sont des chutes valorisables, une bonne partie sont des emballages, peut-être en trop, qui sont très présents. Alors là, on a fait le tour, hein, légèrement, on a vu un certain nombre de déchets, qui sont plutôt les déchets de la soirée d'hier soir, mais il y a aussi de la découpe, évidemment, des restes de panneaux, etc. etc. Alors ça, il y a cette idée aussi que ça puisse quelque part être une matière, une ressource pour le quartier, le nouveau quartier.
Alors il y a je vais citer deux aspects autour de ça. Le premier qui est important, c'est que il faut comprendre que cette implantation d'activités artisanales en centre-ville, elle vient aussi travailler sur une problématique qui est la pression foncière. C'est-à-dire que une des raisons, de mon point de vue, pour lesquelles les artisans ont quitté le centre-ville, c'était le coût du foncier. D'accord. Aujourd'hui, nous, on présente un outil via la mutualisation justement des équipements, des espaces et des services qui permet de réintégrer de l'artisanat en centre-ville à un tarif abordable. Et ça fait vraiment partie de notre ambition.
Avec, quoi qu'il en soit, un accompagnement et donc un choix politique de l'aménageur qui rend ce tarif faisable.
Le choix n'est pas... Il y a un accompagnement de l'aménageur, ouais. Parce qu'on vient effectivement aussi créer une valeur par cette activité artisanale en centre-ville. Mais on est vraiment dans une démarche, nous, on paye un loyer, ouais. Qu'on paye au prix du marché. puisque justement le but c'est de rentrer dans une démarche de pérennité de notre installation. Et donc la seule façon de le faire de notre point de vue est justement d'être au juste prix de l'immobilier. Et là on va par contre travailler sur l'utilisation de ce foncier et justement cette éducation des personnes qui travaillent, des entreprises, en leur disant on vous permet d'être en centre-ville. Donc voilà, et vous le permettez aussi, hein, c'est voilà, c'est pas dans un seul sens. Mais il faut changer sa façon de travailler. C'est-à-dire que l'artisan, tel que je l'ai été longtemps et je le suis encore un peu, qui va garder les chutes de tous ses chantiers en se disant j'en aurai besoin pour le chantier de Madame Attel dans 2 ans, ça aujourd'hui c'est plus possible. Ou alors effectivement on a son hangar à la campagne, on stocke tout dedans et puis on fait un grenier.
Jusqu'à la retraite.
Exactement. Donc le but c'est que nous, notre travail ça va être de vraiment faire ce job d'éducation en disant il faut pouvoir mettre à disposition des autres artisans, c'est le premier niveau de ce qu'on appelle la chutothèque, mettre à disposition des autres artisans les rebuts de matériaux, les surplus, les ratés, tout. Et là, très vite, déjà, on se rend compte que ben, l'ébéniste, il est hyper content de trouver des bouts de profil en métal pour son chantier, plutôt d'acheter une barre de 6 mètres, et que le serrurier, ben, il est très content d'avoir des panneaux de bois pour faire des cales pour pouvoir poser ses verrières. Donc là, il y a un échange qui est hyper simple, qui est hyper fluide, et qui commence.
Donc le déchet de l'un devient la matière première de l'autre.
Exactement. Donc ça, ça c'est, je dirais, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est de dire que il y a des activités, je dirais, à impact social autour de nous qui ont besoin de matière pour leurs activités. On a accompagné l'Utile Atelier, qui est un projet voilà, d'activité de réparation pour les habitants du quartier Bottière de leurs objets. Voilà. L'idée est de dire que nous, on va mettre prioritairement à disposition d'associations ayant de l'impact cette ressource, cette même ressource, qui n'a pas été utilisée dans les 2 mois par les résidents. Ou même, ils viennent aujourd'hui se servir, on les accompagne pour qu'ils puissent prendre ce dont ils ont besoin pour bosser. Et le troisième niveau est d'utiliser cette ressource pour que des habitants du quartier, qu'ils soient anciens ou futurs, hein, puissent avoir accès à cette matière qui est déjà là. Donc on a déjà, je dirais, payé l'impact carbone du transport de cette matière. Plutôt que de la renvoyer en déchetterie pour qu'elle soit broyée, on la met à disposition des particuliers qui viennent chercher la matière pour un bricolage, pour coincer un meuble, pour fabriquer une étagère, et qui vont venir utiliser cette ressource, je dirais, dans une taille adaptée à leurs besoins. Donc on est aussi dans l'idée de dire que bah, si j'ai besoin de 60 cm de tasseau, je prends un tasseau qui fait 70 cm. Et je ne vais pas acheter un tasseau de 2 mètres dans une grande surface de bricolage proche ou autre. Et nous, ce qu'on va faire là-dedans, c'est effectivement travailler sur cet impact-là, mais ça va aussi être l'occasion d'une rencontre entre les résidents et les habitants. Et du coup, on rentre dans cette démarche de conseil. Dans la mesure où, de ce point de vue-là, l'artisan n'a rien à vendre au particulier, et bien on rentre dans une démarche humaine, juste de rencontre et d'explication du savoir-faire, donc de transmission de savoir-faire qui va se faire au fil de l'eau, lors vraiment de petites rencontres. Voilà, donc je le répète beaucoup, mais nous, notre intérêt, il est vraiment de mettre en relation des êtres humains pour qu'ils soient professionnels ou non, chacun puisse venir avec sa compétence et son besoin, échanger au sein de notre lieu.
Alors d'autant plus que là, des êtres humains vont en avoir beaucoup en plus à côté. Hein. On est dans le cadre d'un projet urbain qui va accueillir pas mal de gens. Alors accueillir pas mal de gens en cours d'installation, hein, donc sans doute avec des besoins là-dessus. Mais c'est aussi un projet urbain, donc autant de chantiers d'aménagement de l'espace public, de chantiers de construction en neuf, de chantiers de réhabilitation, etc. Ce qui est aussi un autre sujet, c'est à un moment, comment est-ce qu'on adresse ces chantiers de la proximité quand on est artisan, quand on est petit, y compris des chantiers formalisés, hein, qui sont structurés, cadre d'appels d'offres publics, dans le cadre de sollicitations de promoteurs privés qui ont l'habitude voilà, plutôt de s'adresser à des grosses PME, voire des majors. Sauf que vous êtes juste à côté. Comment est-ce qu'à un moment, on crée une économie de courte distance de façon à ce que, globalement, vous bossiez de l'autre côté de la barrière de chantier? Parce que ça, tout le monde en a envie, tout le monde en parle. Hein. Alors, c'est pas la préférence nationale. Hein. C'est l'idée simplement qu'à un moment, il y a une intelligence collective à bosser en local. Comment on fait ça?
Alors, pour moi, il y a trois éléments dont il faut parler sur ce sujet-là. Le premier, c'est qu'on va d'abord lutter contre la peur des artisans du marché public. à savoir c'est compliqué administrativement. C'est la première barrière.
Alors on va leur dire c'est vrai, mais on va les aider. Hein?
Exactement. Hein? Donc, voilà. Pour le coup, nous, on va vraiment le faire avec eux. Donc ça va être une de nos réponses. Il y a un autre axe qui est la temporalité, sachant que aujourd'hui on est sur des marchés qui s'étalent dans le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le temps de l'urbanisme, c'est plus ton sujet que le mien, hein, mais je pense qu'en dessous de 4 ans, il n'y a rien qui se fait. Donc voilà, en tout cas, même en construction d'un bâtiment, et à l'échelle de l'urbanisme, du coup, c'est 10, 15 ans, voire
exactement,
plus.
Exactement, oui, bien sûr.
Sachant que, pour le coup, les problématiques des faiseurs, que moi j'héberge ici, elle est plutôt de l'ordre d'une semaine à 2 semaines. Donc le gap entre les deux, il est monumental, et la discussion, rien que par cet aspect-là, elle n'est pas toujours possible. Et le troisième aspect, ça va être la façon dont sont organisées, que ce soit la commande publique ou privée, c'est cette difficulté qui s'est créée pour les donneurs d'ordre d'accéder au savoir-faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un donneur d'ordre, ça va être plus simple pour lui de prescrire un matériel qu'il connaît, qui vient de loin, qui est posé selon une technique simple, qui est maîtrisée par n'importe qui, que d'oser dire on va pour la grille du bâtiment, la grille extérieure, faire bosser un forgeron, donc voilà, en local, parce que l'architecte nous a dessiné quelque chose qui va dans cet esprit-là. On va rentrer, voilà, on va avoir cette problématique pour le donneur d'ordre de se dire comment est-ce que je peux faire pour avoir quelque chose de différent. Et souvent, il ne prendra pas le risque de se dire, ben voilà, je vais oser un dessin différent, je vais oser une matière différente, parce qu'il y a le bureau de contrôle, il y a la norme, il y a le temps de la commande, il y a le risque, il y a le service après-vente, il y a énormément de sujets. Et là, nous, notre rôle, ça va être de dire, on fait le garant. C'est-à-dire que nous, Métici, on va répondre à la demande, on va dire, on va être capable de s'engager à fournir un artisan compétent dans 1 mois, ou dans 1 an, ou dans 1 an et demi, qui va pouvoir faire le boulot. Et c'est toujours pareil, une personne, donc là, qui va pouvoir faire le boulot toute seule, mais qui aura été accompagnée sur la partie administrative et technique par une entreprise plus grosse, qu'a justement un cabis pignon sur rue, qu'a une démarche pérenne. Et on va venir faire ce lien dans la temporalité entre l'artisan et le donneur d'ordre pour permettre à la fois au donneur d'ordre d'accéder au savoir-faire et au savoir-faire de monter en compétence sur des marchés de plus grande envergure et de travailler avec d'autres.
Donc là, vous répondez à l'appel d'offres,
on répond.
Vous êtes mandataire et vos résidents, c'est bien ça ?
Exactement.
Sont les sous-traitants, en fait, de Make Ici ?
Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Ils peuvent être sous-traitants, ils peuvent être fournisseurs. Donc voilà, fournisseurs, sous-traitants. Ils peuvent être aussi membres du groupement. Et nous, c'est ce sur quoi on travaille, ce vers quoi on tend à aller. De la création, effectivement, d'un groupement pour une réponse commune.
Différents montages administratifs, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ça peut s'inventer. Par contre, ça remet en cause alors, les habitudes, les pratiques, mais globalement, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, pour faire un appui vélo dans la rue, enfin quelque chose d'extrêmement standard, ce qu'on sait faire et la pratique, c'est de choisir sur catalogue un produit industrialisé, commander le produit industrialisé. Donc là, on a tous les process et finalement, que ce soit l'installation ou l'implantation, c'est-à-dire dire où on le met, tout ça, c'est très rodé. À partir du moment où on s'adresse à un artisan, non seulement il faut arriver à passer la commande, mais il faut aussi faire le dessin. C'est-à-dire ça remet en cause aussi la question du design. Il va falloir dessiner tout ça. On est sur du non-standard. Et donc ça veut dire aussi remettre pas mal d'intelligence, alors sans doute moins de coûts aussi, mais remettre pas mal d'intelligence à la fois dans la commande, la compréhension du tissu local, mais aussi dans la conception, que ce soit de l'espace public ou du bâtiment. Tant dire, c'est que des sujets intéressants, mais une fois de plus, c'est du complexe. Voilà. Alors, ça prend aujourd'hui. C'est quoi le cap? C'est quoi les difficultés là-dessus?
Aujourd'hui, nous, on a une demande de plus en plus forte et on a une demande, pour illustrer ce que tu disais, on a une demande, par exemple, sur la possibilité de fabriquer des éléments, ça peut être du mobilier extérieur ou même intérieur, avec du réemploi de déchets de chantier. Principalement les emballages, parce que c'est le plus facile. Aujourd'hui, on a, nous, un résident qui a la capacité de broyer du plastique, de fabriquer du matériau qu'on peut utiliser potentiellement pour fabriquer du mobilier, des boîtes aux lettres, ce qu'on veut. Donc ça peut être, là pour le coup c'est assez large, hein, ça peut être autant au niveau de l'aménageur que du promoteur, que du constructeur. La difficulté, la première, elle est normative, C'est-à-dire que la première réponse par rapport à cette proposition d'un promoteur va être de me dire oui, mais on n'a pas les certificats de qualité sur le matériau. Voilà. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut le travailler. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant et on en est au stade où certains vont prendre les moyens de faire normer les produits, de cette évolution sur la norme pour que on puisse justement utiliser ces matériaux. Il y a d'autres échelles. L'expérimentation aujourd'hui, elle commence à être possible. Voilà. Il faut aussi, et c'est notre boulot, hein, et voilà, que nous, on travaille sur l'échelle, puisque quand un aménageur va commander des aménagements publics extérieurs, il ne va pas commander un banc, il va commander les aménagements pour une ZAC. Et c'est là où, effectivement, si on a une personne qui, avec une petite machine à pédale, broie du plastique pour en faire du mobilier urbain, le mobilier urbain sera livré un peu trop tard.
À l'issue du projet urbain, au bout de 15 ans.
Exactement. Mais il faudra trouver des gens pour pédaler. Donc voilà, donc, il y a effectivement cette volonté d'évoluer. Dès la demande, moi je ne vois pas forcément la concrétisation. Et un des plus grands freins à cette concrétisation, c'est aussi la rigueur qui est nécessaire, hein, la rigueur administrative sur la rédaction des marchés, qui impose un cadre qui n'est pas compatible avec justement cette production artisanale. Et il est important que justement cette consultation puisse être faite vraiment tôt dans les projets, en se disant voilà, qu'est-ce que on va intégrer, quelle part on va intégrer. Il y a deux façons de le faire, hein. Soit c'est une obligation d'intégrer dans les marchés une part de matériaux recyclés, soit je dirais c'est une intelligence du design et c'est confier les projets à des aménageurs, à des paysagistes, à des urbanistes qui ont justement cette compréhension de la problématique et cet accès justement au savoir-faire.
Oui, très bien. Mais on retombe hein, toujours sur ces enjeux-là, qui à un moment, si on veut faire bien in fine, il faut qu'on comprenne la façon dont on va fabriquer très tôt. Bah, c'est l'inverse, choisir des éléments sur catalogue au dernier moment et donc de se limiter à des éléments standards. Donc ça remet en cause beaucoup de choses, les modes de conception, mais aussi les passations de marché, l'organisation administrative, les questions assurantielles, etc., etc. Bon, donc beaucoup de boulot en perspective, beaucoup d'avenir, en tout cas beaucoup de pistes aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'on va maintenant en profiter, si tu veux bien, pour faire une petite visite des lieux.
Avec plaisir.
Alors nous voici devant l'entrée d'ici Nantes. Alors est-ce que je peux te laisser te présenter ?
Bien sûr. Donc je m'appelle Drew Taylor, je suis le responsable des ateliers d'ici Nantes. Là, on va faire une visite des ateliers qui vont sur 6 alvéoles, du début dans la partie plutôt numérique, impression et textile, jusqu'à l'atelier métal qui est assez complet.
D'accord, bah écoute, on y va, on te suit.
Ah, ouais.
Wow. Superbe.
Un miroir.
Oui, donc là, c'est de la marqueterie tout à fait artisanale. Et en même temps, c'est un process numérique,
c'est
de
ça,
la découpe laser.
En fait, ouais, on va dire avant que je commence à être dans la production. Enfin, ma première étape de production, c'est la découpe à la laser. Donc, j'ai toute la phase de conception sur ordinateur avant, etc. Et après, je reviens sur un schéma plus classique, plus traditionnel, où j'assemble.
Sur la mise en œuvre.
Et je vais les mettre sous ma presse, qui date de 1920.
Ils sont dans l'atelier bois.
Voilà. Donc, voilà, grande complémentarité entre nouvelles technologies et tradition. Et j'adore ce dialogue.
En tout cas, c'est super, Brou.
Merci.
Et du coup, à côté d'Elodie, il y a Paul Textile. Avec Claire qui est tapissière. Donc on a de quoi coudre des tissus épais et du cuir. On a de quoi surjeter les tissus pour pouvoir faire une finition propre. Donc on a un pôle textile qui est relativement complet. Aujourd'hui, on est sur un investissement de brodeuse numérique, toujours dans l'idée d'intégrer des nouvelles machines numériques. C'est une machine qui arrivera la semaine prochaine.
D'accord.
Qui peut broder 4 fils à partir d'un dessin qu'on peut aussi faire sur Illustrator et d'autres logiciels numériques.
On rappelle souvent que dans le fer, dans le retour du fer, Il y a aussi la couture et il y a aussi la cuisine.
Tout à fait.
Donc là, on a donc une petite découpe numérique, découpe laser.
Donc ça, c'est la découpe laser. C'est une machine, on l'achète neuf, ça vaut 40 000 euros. Donc, au niveau investissement, c'est une machine qui est de troisième main. À la base, elle avait été achetée pour une industrie textile. On faisait tout le patronage en découpe dessus. Ensuite, ça a servi dans un atelier collaboratif en région parisienne, dans lequel moi j'étais membre il y a quelques années. Et aujourd'hui, elle a atterri ici. Donc, elle a sa troisième vie. On aime bien utiliser redonner une seconde vie, voire une troisième vie à des machines.
Ouais, il y a la valeur de la machine, mais il y a aussi la place qu'elle prend, les équipements périphériques qui ne sont pas négligeables.
Et puis des machines industrielles sont capables de tourner sur des dizaines d'années sans problème. Une question de maintenance, mais dans l'ensemble, on arrive à les entretenir et les faire tourner dans le temps.
D'où l'intérêt de la mutualisation. Évidemment, les imprimantes 3D, un atelier d'électronique.
Tout à fait. Donc François qui est électronicien, qui a besoin au final à la base de peu de choses, un poste à souder, des composants, il peut déjà faire pas mal de tours de son métier, mais ce qu'il vient chercher ici à l'atelier, c'est d'utiliser la découpe laser pour pouvoir faire des boîtes pour faire contenir ses composants, se former à la fraiseuse numérique pour faire des éléments de décor quand il est sur des aménagements d'escape game avec son entreprise. De se mettre à l'utilisation d'impression 3D pour faire aussi des boîtiers, des éléments de décor. Et puis aussi une communauté qui échange, qui lui donne des idées, des conseils. Et lui aussi, en échange, nous aide à réparer certaines machines, à détecter des pannes, à apporter son savoir-faire aussi en contrepartie.
Ok, ben merci pour la visite. Et puis c'est bien d'avoir de la place pour mettre un peu son bordel aussi. Ça, c'est bien.
Ça sera
le cas. Alors on change de pièce.
On change de pièce, on va dans l'alvéole 2. Qui aujourd'hui accueille deux espaces privatifs et des salles de réunion et un espace nomade. L'espace nomade a pour fonction d'accueillir pendant 2-3 heures, toute une journée, les artisans, les créateurs qui ont besoin d'un bureau, d'une connexion internet, de se réunir à plusieurs pour bosser sur leur projet. C'est un espace où on se pose, on fait de la conception, on rédige des devis, des factures, une imprimante. Il y a des petites salles de réunion, on peut recevoir ses clients. Et puis il y a deux espaces privatifs qui sont occupés aujourd'hui. Donc il y a la matériothèque,
ouais,
qui était notre première résidente à ici Nantes, qui aujourd'hui occupe 50 mètres carrés. Léonore, elle a un showroom permanent d'échantillons de matériaux pour de la construction et de la fabrication. On peut aller voir ce qu'elle fait de plus près.
Bah oui. Bonjour. Oh là là, là il y en a partout. Bonjour.
Effectivement, il y en a partout et c'est un vrai lieu d'inspiration auquel nos résidents ont accès pour venir relever des références, demander conseil. Eleonore aussi a des missions de conseil et de sourcing de matériaux un peu atypiques, que ce soit pour nos résidents ou pour ses clients elle, qui sont promoteurs, archi d'intérieur, designers. Adhérents du coup à la MAT, la matériothèque, et qui viennent consulter les matériaux, lui demander conseil.
Donc là on a des échantillons à la fois de sol, de tissu, de parquet, de bois.
De construction, de sourcé, aménagement intérieur, textile, ameublement, design produit.
D'accord, donc on est plutôt sur le second œuvre ou des matériaux vraiment de qualité.
Non, les matériaux de façade.
Ah oui. On a des briques isolantes.
Voilà. Il y a les biosourcés, il y a les isolants.
On a même nos fameuses briques en terre crue.
Là, la terre crue.
Auxquelles nous sommes très attachés.
Oui. là, le sourcing est très centré sur tout ce qui est issu du végétal, biosourcé, avec
un cycle de vie, avec le cycle de vie, pas que le bilan carbone, le cycle de vie.
D'accord.
De vie.
Et là, c'est, sauf erreur, c'est les briques vendéennes, je crois.
Alors, ça c'est Argilus, ouais. Ça c'est du Argilus.
Donc en plus, on est local.
Ah ben, ça fait partie de nos priorités.
Et j'irai même plus loin sur le local, aussi des résidents qui exposent leurs matériaux dans la matériothèque. Des expérimentations de marqueterie de paille, issues de recyclage, comme Sullivan qui broie du plastique et qui refait des plaques. On a des résidents qui exposent de la matière première qu'ils peuvent créer dans nos ateliers au sein de la matériothèque.
Super, ben merci pour la visite, à bientôt.
Donc on continue dans l'alvéole 3.
Oui, alors l'alvéole parce qu'en fait c'est une série de petits bâtiments. Alors c'est pas des sheds, mais c'est des petits bâtiments assez élégants qui ont été isolés en toiture, et puis c'est de l'aménagement intérieur, des volumes qui ont été créés dans le volume.
Exactement. Donc nous on a reçu les bâtiments, c'est des coques, clairement, ouais. Isolés par la toiture. Des menuiseries qui ont été posées, parce qu'à la base il n'y avait pas de menuiserie, il y avait que du grillage, donc il faisait assez frais les premiers hivers. Et donc l'alvéole 3, on trouve les bureaux d'ici Nantes, ouais. Un lieu pour lequel on peut se poser, nous, le staff, pour travailler sur les divers sujets pour les résidents. L'espace de cuisine, le lieu d'échange et de rencontre entre résidents, que ce soit pour la pause café ou le déjeuner ou même les apéros du soir. Et un studio photo qui permettra aux résidents de prendre en photo leur création avant d'aller livrer chez les clients.
Ah oui, c'est vraiment un studio de prise de vue, vous n'avez pas mis en place
tout à fait.
Un labo photo qui nous permettrait de développer nos films.
Et donc la dernière partie de l'alvéole 3 qu'on appelle l'espace grand projet, qui est un espace qui permet de grossir selon les projets, d'avoir 120 mètres carrés dédiés à montage d'une expo, d'une boutique. Donc là en ce moment, il y a Julien qui est agenceur designer qui est en train de monter un aménagement pour une librairie.
D'accord, oui, donc ça c'est un espace tampon qui n'est pas attribué à l'un ou à l'autre.
Tout à fait, c'est comme une salle de réunion, c'est un espace qui se réserve dans le temps pour le temps d'un projet.
Alors là on vient changer d'alvéole et on change aussi d'échelle,
on
notamment
est
de machine.
Dans l'atelier de menuiserie, l'alvéole 4, avec du stockage, du rangement de panneaux. On y retrouve aussi la chutothèque et un grand nombre de machines professionnelles pour que les résidents, qu'ils soient ébénistes, menuisiers, scénographes ou même forgerons, puissent découper, tailler différents morceaux de bois et faire les assemblages. Donc on a une taille limite par alvéole de résidents qu'on peut mettre pour pas justement engorger les ateliers. Donc aujourd'hui, il y a 10 personnes dans cet alvéole.
Oui, parce que là on n'est pas dans des espaces privatisés, hein. Il y a bien plusieurs...
Du tout, on est vraiment dans des espaces mutualisés. Ouais. Donc là, on passe devant, avant d'aller dans l'alvéole 5, dans la fraiseuse numérique. On va passer sur donc aujourd'hui c'est un format qui fait 1m20 par 1m20 qui nous permet de faire beaucoup de choses. Le principe c'est de pouvoir découper commandé par un logiciel. Nous la problématique aujourd'hui c'est de passer sur du plus grand pour pouvoir produire plus de volume
avec des tailles de panneaux standard
et aussi acheter des machines françaises plus robustes et plus qualitatives pour nos résidents et nos projets de fabrication. On passe ensuite dans l'alvéole 5 qui est en cours d'aménagement encore, qui est un espace tampon, un agrandissement de l'atelier bois. Donc on accueille encore 10 personnes de plus qui travaillent le bois essentiellement. Et un autre privatif qui est prévu, une cabine de peinture et de vernis. On a aussi un pôle peinture et finition avec une cabine de thermolaquage et une étuve. Permet de faire de la peinture sur métal et des zones de polissage et de sablage qui seront compris aussi.
Oui, parce que ça, c'est typiquement, ça fait partie de ces usages-là. Alors, l'équipement n'est pas nécessairement très onéreux. Par contre, la place, c'est des équipements spécifiques, des extractions d'air, etc.
Tout à fait.
Tout ça, évidemment, difficile pour un artisan seul.
Oui, un artisan seul ou qui, lui, potentiellement, n'a pas la place et est obligé de faire appel à un sous-traitant qui sont souvent loin de là où il est installé, qui a une logistique ou de transport de pièces qui peut aussi abîmer. Là, on fait 3 mètres, on rentre la pièce dans la cabine et on peut la vernir soi-même.
Encore une alvéole, il y en a combien ?
Alors, là, on arrive dans la dernière, l'alvéole 6, qui héberge aujourd'hui l'atelier métal. Donc on met vraiment les plus sales et les plus brillants tout au bout, les plus isolés. Donc on y trouve des machines pour travailler le métal sous toutes ses formes, que ce soit chauffé avec de la forge ou au chalumeau, jusqu'à de la tôlerie pliée, roulée, et après toutes les techniques de soudure, de découpe et de perçage. Et ensuite une partie de l'atelier métal qui a été cloisonné pour faire un atelier de formation. L'atelier de formation qui aujourd'hui accueille une formation en impression 3D.
D'accord.
Donc c'est un espace qui est nous important, qu'il soit au sein des ateliers, parce qu'on, quand on monte et on donne accès à des formations certifiantes et professionnalisantes, donc là c'est une formation d'une semaine, il est important que ce soit nos résidents qui ont l'expertise, qui encadrent les formations au sein des ateliers et que les gens, les apprenants qui viennent se former se frottent les épaules avec ceux qui pratiquent au quotidien, puissent déjeuner avec eux, échanger, poser des questions et soient vraiment intégrés à la manufacture le temps de leur formation.
D'accord, donc là on est vraiment sur... Non pas des résidents, mais des tiers qui viennent ici.
Tout à fait. Ça peut être des résidents qui veulent monter en compétences, mais il y a beaucoup de grands publics, des professionnels, des pré-retraités, voire même des retraités qui veulent apprendre parce qu'ils ont l'envie de bricoler chez eux sur leur temps libre. Et aussi des gens qui se posent la question de se reconvertir et qui veulent démarrer une petite formation relativement légère pour appréhender un métier avant de se lancer sur un CAP en reconversion ou un bac pro, etc.
Super. Et donc on est sur un lieu avec des résidents qui sont essentiellement des professionnels sous statut différent, avec des niveaux de maturité, d'avancement dans leur parcours d'entrepreneuriat différent. Mais aussi, l'idée, c'est d'accueillir parfois aussi du grand public, des gens qui viendraient utiliser ponctuellement l'outillage. C'est complexe tout ça ?
Alors, sur l'aspect grand public et l'utilisation des machines, nous, on reste essentiellement un lieu dédié à une activité professionnelle. Et donc, effectivement, il y a plusieurs statuts, plusieurs types d'entreprises qui viennent exploiter nos lieux. C'est avant tout un lieu professionnel, mais on a une vraie dimension de pédagogie et une envie de transmettre le savoir-faire et de donner envie aux futures générations, aux générations qui se posent la question de se reconvertir, à s'intéresser à nos métiers. Donc il est important pour nous d'avoir cette ouverture-là. Cette ouverture-là, aujourd'hui, elle se fait par le biais de formation. Demain, je parle de ça plutôt l'année prochaine, 2022, ça se passera par l'ouverture du showroom à Essinante, qui est dans une partie des locaux qu'on occupe, mais qu'on n'a pas encore visité. Dans lequel il y aura 100 mètres carrés de showroom et du coup ouvert sur le quartier.
D'accord, il y a cette question de la perméabilité au reste de la ville. Écoute, merci beaucoup
de rien,
pour la visite. C'est particulièrement intéressant et à très bientôt.
À bientôt.
Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.